Salut à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Point de vue, votre tour de l'actualité locale au pays. Aujourd'hui, une cinquantaine de personnes se disent victimes au Québec d'une hospitalisation forcée et demandent réparation.
Je crois qu'il y a des gens qui ne savent pas, tout simplement que ce qu'ils ont vécu, c'était illégal, qu'ils laissent aller puis qu'ils ne se sont pas posé de questions.
Deux églises de Shawinigan sont désacralisées et transformées faute de fidèles.
Du côté de la ville de Shawinigan, il n'y aura pas de classement. Si le ministère décide de faire quelque chose, il fera comme la Vespasienne et nous l'indiquera. Pour nous, le dossier est clos.
Le dessinateur Yvan Rowe fait la van life. Il entreprend un périple de plus de 3 mois à travers une dizaine de villages de la Basse-Côte-Nord pour en illustrer les paysages.
J'aime dessiner les choses qui sont pas parfaites.
La 7e édition du spectacle d'humour Francomédie prend du galon à Toronto.
Ce soir, on était plein à craquer, donc c'est fantastique que tout le monde soit là. Le français, c'est vraiment une langue vivante à Toronto. On peut vivre en français et il y a plein de choses qui se passent et le français n'est pas mort.
Et on soulignait récemment la Journée nationale des phares, celui de Cap-des-Rosiers est comme d'autres devenu le parent pauvre du patrimoine.
Si PHOcean n'a pas assez de fierté pour l'entretenir qu'il cède à Parc Canada.
La dernière nuit de la reine sera l'unique voix théâtrale francophone et queer au Fringe Fest d'Edmonton.
C'est une pièce qui parle d'espoir.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale pour vous partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour, merci d'être là. Un plaisir comme toujours de vous accueillir. Boris Chassagne au micro avec vous pour la prochaine demi-heure. On ouvre cette édition de Point de vue au Québec avec deux reportages de Robert Savard et Alice Zanetta. On se rend d'abord à Shawinigan où deux églises ont été désacralisées faute de fidèles et bien sûr de fonds. Les églises de Saint-Bernard et de Saint-Georges-de-Champlain ne sont désormais mais plus considérés comme des lieux de culte au sens religieux, la première sera démolie pour être remplacée par une immense unité d'habitation, tandis que les bancs et l'autel de l'autre seront remplacés par des obstacles et des bosses pour les amateurs de planches à roulettes et de BMX. Les décisions ont été prises en dépit de l'opposition de plusieurs résidents. Une demande de classification comme bâtiment patrimonial avait même été présentée pour l'église Saint-Bernard. Les détails avec Robert Savard. À Shawinigan.
Le ministère de la Culture et des Communications du Québec a laissé le champ libre à la ville de Shawinigan afin que le projet de démolition de l'ancienne église Saint-Bernard puisse aller de l'avant. La demande de classement du bâtiment au statut d'immeuble patrimonial a été rejetée. Le conseil municipal a ainsi toutes les cartes en main pour se prononcer sur la demande de révision de sa décision du 16 juin dernier, celle-ci autorisant la démolition de l'immeuble situé sur la 3e rue de la Pointe, dans le centre-ville de Shawinigan. En séance extraordinaire, consacrée à de multiples projets d'urbanisme, cette autorisation de démolition a été maintenue. Selon le répertoire du patrimoine culturel du Québec, la demande d'inscrire l'ancien lieu de culte désacralisé a été reçue par le ministère le 14 juillet dernier. Le maire Michel Anger avait publiquement manifesté son souhait de voir cette demande rejetée.
Il y aura démolition de l'église Saint-Bernard. Libre à vous de faire d'intervenir auprès du ministère pour tenter de citer ou de classer. Du côté de la ville de Shawinigan, il n'y aura pas de classement. Si le ministère décide de faire quelque chose, il fera comme la Vespasienne et nous l'indiquera. Alors donc, pour nous, le dossier est clos.
L'analyse a révélé que ce bien ne possède pas un intérêt patrimonial suffisant pour justifier son classement. Le comité de démolition a autorisé l'entrepreneur à détruire l'église pour la remplacer par un immeuble résidentiel de 8 étages. Une autre église dans le secteur Saint-Georges-de-Champlain vient de subir un sort sans L'église a été désacralisée dimanche dernier. Elle sera transformée en un centre d'entraînement pour la planche à roulettes, le BMX et la trottinette. Le patrimoine bâti de Shawinigan se fait vieillissant. Pour le maire Anger, il sera de plus en plus difficile de conserver certaines infrastructures. Le maire Anger conserve un goût amer d'une récente décision du ministère des Communications au sujet de la Vespasienne du parc Antoine-Saint-Onge.
La piscine est déjà démolie en fonction du plan de masse qu'on s'était donné. On pense que ça faisait du sens qu'on a proposé. On est responsable, on en a restauré plusieurs bâtiments du côté de Shawinigan quand ça fait du sens. Alors celui-là, ça faisait pas de sens.
Québec n'a pas changé sa position par rapport à la Vespasienne et n'allonge pas non plus les sommes qui seront nécessaires à sa restauration. Robert Savard, IGL, Shawinigan.
Une cinquantaine de personnes de la région de Québec demandent réparation, victimes, disent-elles, d'une hospitalisation forcée de plus de 72 heures. Ces personnes hospitalisées de force, en raison de leur état mental, pourraient être indemnisées. Un recours collectif a été déposé. L'organisme Autopsie de la région de la Capitale-Nationale précise qu'une cinquantaine de victimes se sont inscrites à ce recours, qui a été bouclé le 11 août dernier d'ailleurs. On estime que entre 500 à 50 000 personnes pourraient être victimes d'une garde illégale au Québec sur la période visée par le recours collectif, soit entre 2015 et 2024. La loi P38 permet au Québec d'imposer des soins aux personnes dont l'état mental est jugé dangereux pour elles-mêmes ou autrui le temps d'une garde préventive limitée à 72 heures. Si les autorités médicales souhaitent prolonger cette garde au-delà de ce délai, elles doivent d'abord obtenir l'accord d'un tribunal. Les détails avec Alice Zanetta.
L'organisme Autopsie dit avoir accompagné plus d'une cinquantaine de personnes de la région de la Capitale-Nationale qui ont subi une hospitalisation forcée illégale de plus de 72 heures entre 2015 et 2024 et qui demandent aujourd'hui réparation. L'accompagnante en défense des droits en santé mentale, Audrey Allaire.
Lorsqu'un médecin estime que l'état mental d'une personne représente un danger grave et immédiat, c'est très important, pour lui-même ou pour autrui, il y a la possibilité de le garder pour un maximum de 72 heures. Au-delà de ça, si on veut continuer à garder cette personne, ça doit être autorisé par un juge. Sinon, la personne peut quitter.
Les estimations de garde préventive illégale varient grandement. Entre 500 à 50 000 personnes pourraient être concernées à travers le Québec. En date du 1er juin, ce sont 450 personnes qui se sont inscrites au recours collectif sur la garde préventive de plus de 72 heures consécutives. Les organismes de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches relatent avoir reçu près de 200 appels de demandes d'information ou d'aide à l'inscription. Mais il reste difficile de rejoindre les victimes potentielles, explique Audrey Allaire de l'organisme Autopsie.
Je crois qu'il y a des gens qui ne savent pas, tout simplement que ce qu'ils ont vécu, c'était illégal, qu'ils laissent aller puis qu'ils ne se sont pas posé de questions. Évidemment, rejoindre des gens qui sont un peu plus vulnérables, ça reste un peu plus difficile de base. Puis, est-ce que c'est possible que ces gens-là ne veulent pas non plus réouvrir des plaies, des traumas qu'ils ont vécu, c'est possible aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs.
La durée moyenne des gardes préventives a drastiquement diminué ces 10 dernières années après que la Cour d'appel du Québec ait averti les hôpitaux de leurs pratiques illégales. Selon les données de l'organisme montréalais Action Autonomie, les gardes préventives sont passées de 136 heures en 2014 à 76 heures en 2022, ce qui reste au-dessus de la limite légale de 72 heures. L'organisme Autopsie constate que plusieurs patients méconnaissent leurs droits une fois qu'ils sont hospitalisés. Audrey Allaire affirme que son organisation reçoit au moins un appel par semaine directement depuis l'hôpital.
On a beaucoup d'appels sur des gens qui se questionnent, qui sont actuellement à l'hôpital, puis ils se demandent si leur garde est légale. Donc, ça arrive, tout le temps, même en 2025. Il y a même des gens qui appellent pour le recours collectif qui l'ont vécu en 2025. Ils sont malheureusement pas éligibles au recours, mais ça se passe encore.
CKIA n'a pas pu obtenir de données sur les gardes préventives effectuées par le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale au moment de la diffusion de ce reportage. Par ailleurs, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, compte revoir l'application de la loi P38 qui encadre ces hospitalisations forcées lorsque la santé de la personne ou d'autrui est en danger grave et immédiat. Alice Zanetta pour IGL à Québec.
Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca.
On se tourne du côté de la ville de Rennes et on reste au bord du Grand Lac pour profiter de l'air frais du bord de l'eau, mais aussi pour vous parler de Franco Midi qui a cette année attiré un public record de francophones et de francophiles. L'événement qui se tenait le 8 août dernier à l'hôtel Victoria de Toronto a réuni sur scène des humoristes émergents et des artistes confirmés venus célébrer la diversité culturelle et la richesse de la langue française au sein de la communauté francophone torontoise. L'événement séduit chaque année un public toujours plus large. Les détails avec Annette Minka à Toronto.
Au niveau de l'anglais en France, au niveau des cours, les trois premières années, tout ce que vous faites, la prof vous dit « Where is Brian ?»
L'organisme francophone Francomedy organisait son 7e spectacle de stand-up cet été, le 8 août, à l'hôtel Victoria, au cœur de Toronto. Cette édition, affichant complet, a réuni un public varié, composé autant de francophones que de francophiles, un signe fort de l'intérêt grandissant pour la culture francophone à Toronto. Pour Serge Paul, fondateur de Francomedy, c'est une vraie source de joie.
Ce soir, on était plein à craquer, donc c'est fantastique que tout le monde soit là. Le français, c'est vraiment une langue vivante à Toronto. On peut vivre en français, on peut venir à Franco Open Mic, venir à Francomedy, et il y a plein de choses qui se passent qui permettent de vivre son français à plein temps. Moi, je vis 90% de ma vie en français, donc c'est tout à fait possible, et le français n'est pas mort.
Sur scène, le français a pris vie à travers les voix de comédiens venus des quatre coins de la francophonie. Parmi eux, Dr Divalgo, ancien gestionnaire de portefeuille et comédien à 16 heures, a su faire rire le public avec ses anecdotes glanées à travers le monde.
Vous, on dit qu'on commence pas avec un facile. Mais en gros, on dit que moi, j'ai une très grosse carrière là-bas.
Et derrière l'humour, une volonté claire.
Gazéline, si tu veux, notre essence, c'est de faire rire les gens. Si les gens rient, bien, ça nous donne plus de courage pour aller plus loin, pour continuer dans ce métier-là ou dans cette activité-là. L'humour, c'est universel, mais les référents sont très locaux. Donc, on peut prendre la même blague, la même idée, mais il faut connaître les référents locaux, il faut parler des choses que les gens connaissent, qui peuvent se référer à ça.
Une démarche que partage aussi Frédéric, comédien québécois, qui a mis en avant les petites rivalités franco-québécoises.
Il y a deux fois le mot « vous », les dames. Personne ne se plaît.
Cette édition a mis en lumière la richesse et la diversité de la francophonie, un mélange qui a séduit Benjamin, nouvel arrivant français à Toronto.
C'est la première fois que j'assiste à cet événement et j'en suis très content. C'est un vrai plaisir d'échanger en français avec une autre population et de participer à des animations. On aime le côté humoristique, on aime également le côté convivial et l'accueil chaleureux qui nous a été fourni.
Et Yaya, comédien et francophile, partage ce même enthousiasme.
C'est ma première fois à voir un comédie en français. Sinon, j'ai vu quelques spectacles, mais c'était toujours en ligne, pas en présentiel. Moi, je ne me souviens pas de son nom, mais je pense qu'elle est marocaine, elle s'appelle Mohamed. Et la chose que j'ai bien kiffé, c'est qu'elle interagissait avec le public. C'était très marrant. Et parce qu'elle se souvenait de fait de chacun, de la provenance de chacun et leur profession. Donc, ça m'a bien plu.
Le prochain rendez-vous de Francomedy est déjà fixé au 12 septembre prochain, toujours à l'hôtel Victoria à Toronto. C'était un reportage d'Annette Minka pour l'initiative de journalisme local à Toronto.
Le regard de mes copines, et donc j'ai foncé à la cuisine pour voir s'appeler Brian.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
Les villages de la Basse-Côte-Nord au Québec ont été photographiés et filmés de nombreuses fois, mais pas tant dessinés. C'est la mission que s'est donnée et qu'a accepté le dessinateur Yvan Rau, qui, équipé de son campeur, entreprend un périple de plus de 3 mois à travers une dizaine de villages de la Basse-Côte, bien décidé à l'illustrer. Loin des sentiers touristiques traditionnels, il croque donc sur le vif des paysages, des maisons, des quais et des détails de la vie quotidienne. de dessinateur a, lors de cette expédition artistique, dû affronter non seulement les caprices de la météo, mais aussi les nuées de mouches noires et surtout la solitude. Monsieur Rowe affirme que ses œuvres ne sont pas, pour l'instant en tout cas, à vendre, mais il souhaite toutefois réunir plus de 150 dessins dans un carnet de voyage illustré consacré à la région de la Basse-Côte-Nord. Marie-Ève Dussablon l'a rencontré.
J'aime dessiner les choses qui sont pas parfaites.
Les villages de la Basse-Côte-Nord ont été filmés, photographiés, mais ont-ils été dessinés? C'est le projet du dessinateur Yvan Rowe. Il y a 15 ans, il est venu travailler dans le domaine de l'éducation en Basse-Côte-Nord, plus précisément dans le village de La Romaine, situé non très loin de Tête-à-la-Baleine. Plus d'une décennie plus tard, il décide donc d'y revenir en réunissant deux de ses passions, le voyage et le dessin. Avec l'achat de son campeur, le croquis de son périple prenait forme. Dessiner les villages peu visités de la Basse-Côte.
Ça ne s'est pas vu, ça ne s'est pas fait. Puis à partir de ça, je pourrais en faire comme un carnet de voyage. Là, c'est sûr que je me concentre beaucoup plus sur la Basse-Côte-Nord parce que je suis obligé de passer une semaine à chaque village, mais c'est pas un malheur. Non. C'est correct parce que là, je prends le temps de bien vivre l'intérieur. Je savais que ce serait comme un territoire non exploré ou peu exploré en dessin, en peinture peut-être. Mais en dessin, non.
Pendant 3 mois, M. Rowe, formé en art à l'Université du Québec à Montréal, parcourt une dizaine de villages, en dessinant sur son chemin des paysages et habitations moins conformes de la côte. La première journée sert au repérage, s'installer, et après, c'est l'aventure qui commence, avec carnet de dessin à la main et papier de toutes sortes.
La Basse-Côte m'oblige à rester une semaine, donc j'ai adopté un peu cette façon de faire là. Donc, à chaque semaine, la première journée, c'est pour le repérage. Le meilleur des mondes, je suis à l'extérieur et je dessine in situ. Les dernières semaines, il y a eu beaucoup de pluie. Donc, j'ai commencé à prendre mes propres photos et dessiner d'après la photo ou dessiner dans mon véhicule. J'en fais peut-être une quinzaine par semaine. Ça va des paysages à une observation très, très pointue comme les rochers. Là, j'aimais la couleur, la roche, la texture, les régions, les encavures. Et parfois aussi, ça va, tiens, comme ici, c'est une photo que j'ai prise d'un travailleur qui refaisait la tôle à l'épicerie.
Mais partir pendant 3 mois dans des villages peu visités par des touristes, ça vient aussi avec une part de difficulté. La météo, les mouches et la solitude.
Il y a des jours où je me dis, ouais, ouf, est-ce que c'était une bonne idée, ce projet-là? Parce que j'avoue que j'avais pas anticipé l'aspect solitaire. Mais oui, là, parce que le dessin est assez solitaire. C'est pas toujours facile.
Pour le moment, les dessins ne sont pas à vendre, mais Yvan Rowe souhaite créer un carnet de voyage avec plus de 150 de ses créations illustrant la Côte-Nord. Du bon matériel pour un éditeur. Ici Marie-Ève Dussablon pour l'IGL, à Tête à la Baleine.
On soulignait le 13 juillet dernier la journée québécoise des phares lancée en 2015 par la Corporation des gestionnaires de phares de l'estuaire du golfe du Saint-Laurent. Cette journée vise à mettre en valeur les phares du Saint-Laurent, à préserver évidemment ce patrimoine maritime bâti via des projets de restauration et de revalorisation. Le plus haut phare du Canada, celui de Cap-des-Rosiers, situé à la limite du parc Fort-Rion au Québec et qui fait face au golfe du Saint-Laurent, fait près de 35 mètres de hauteur. cœur. Il est mal en point, il a besoin de beaucoup de soins. On estime que la facture pourrait atteindre les 7 millions de dollars. Il a, en 1974, été reconnu officiellement comme lieu historique national du Canada et 20 ans plus tard, classé bâtiment fédéral du patrimoine. Le député québécois de la Gaspésie et des Îles, Alexis Deschênes, et le maire de Gaspé, Daniel Côté, affirment faire pression auprès du ministère fédéral des Pêches et Océans et de la nouvelle ministre, Joanne Thompson, pour que les travaux nécessaires à l'intégrité du bâtiment soient effectués au plus vite. Et peu importe par qui, Toby Germain est à Gaspé, non loin de là, il nous a ramené ce qui suit.
Présents à Cap-des-Rosiers pour la journée des phares samedi dernier, Daniel Côté et Alexis Deschênes ont rappelé l'importance d'assurer la préservation du site historique maritime du plus haut phare au Canada. Si Daniel Côté se réjouit des travaux qui ont été faits sur la balustrade et sur la coupole afin de permettre à nouveau l'accès au phare, il rappelle que le lustre d'une nouvelle couche de peinture ne saurait cacher l'ampleur des interventions à effectuer.
La couche de peinture n'est pas suffisante pour assurer la préservation à long terme du bâtiment. Il y a des fissures, il prend l'eau. Puis plus il va prendre l'eau avec les effets du gel et du dégel, plus il va maganer, plus il va être à risque qu'on le perde. Fait que ça prend beaucoup plus que la couche de peinture qui a été mise pour en assurer la préservation. Puis si PH Océan n'a pas assez de fierté pour l'entretenir, qu'il cède à Parc Canada, c'est sa mission de le faire. Si l'équipe de Parc Canada à Gaspé entretient le de Pointe-au-Père à 500 km d'ici, devait être capable aussi d'entretenir celui de Cap-des-Rosiers qui est à 0 km de Forion.
Le député fédéral de la Gaspésie-les-Îles Listougouche, quant à lui, souhaite rassembler tous les intervenants régionaux à la même table avec les ministres Joanne Thompson et Stephen Guilbeault. Voici Alexis Deschênes.
Alors ici, pour le phare de Cap-des-Rosiers, ce qu'il faut, c'est s'assurer que l'État fédéral joue son rôle. Puis c'est un peu le message que je voulais livrer à tous les gens ici. On va travailler ensemble pour mettre de la pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il prenne soin davantage du phare de Cap-des-Rosiers. Moi, j'ai rencontré Mme Thompson à Ottawa. On a établi une première rencontre de travail. On a surtout parlé de pêche à ce moment-là. On va se rencontrer à Gaspé probablement en septembre ou dès que c'est possible avec tous les intervenants d'ici. Et après ça, je vais faire les représentations avec la ministre des Pêches. J'ai un bon contact avec elle, avec son chef de cabinet aussi. On va en parler aussi avec M. Guilbeault.
Pour Daniel Côté, il s'agit simplement d'un manque de volonté politique parce que les solutions existent bel et bien. Il précise que le gouvernement fédéral est généralement prêt à se départir des infrastructures excédentaires en offrant un montant d'argent au milieu pour s'en charger, comme dans le dossier des quais et des havres de pêche, par exemple. Selon le maire de Gaspé, le même principe devrait aussi s'appliquer lors d'une session entre les ministères.
J'ai parlé avec les plus hautes autorités de Parc Canada dans les dernières années, là, que ce soit le directeur national pan-canadien ou le directeur de Parc Canada pour le Québec. Tous les deux me disent si on me demande de le prendre, je vais le prendre. Tant qu'on va payer de l'impôt à Ottawa, là, ben, je pense qu'on devrait avoir un retour sur notre investissement. On n'a pas énormément de retours sur notre investissement à Gaspésie, là, mais je pense qu'on mériterait au moins que les quelques immeubles qui appartiennent encore au fédéral qui continuent de les garder dans leur giron.
Cette année, la célébration de la Journée des phares a attiré plus de 300 personnes au site historique maritime du phare de Cap-des-Rosiers. C'était Toby Germain à Cap-des-Rosiers pour une initiative de journalisme local.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chétiquan en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
Et notre dernier arrêt, on le fait dans l'ouest du pays pour vous parler de théâtre et de la pièce intitulée « La dernière nuit de la reine » qui sera la voix francophone et queer du Fringe Festival d'Edmonton, présentée dès le 15 août au Centre des arts visuels de l'Alberta dans le cadre de ce festival. « La dernière nuit de la reine » signée par l'auteur et metteur en scène Gilbert Drapeau est une pièce engagée qui aborde les thématiques de l'âgisme, de la grossophobie et des discriminations au sein de la communauté queer. La pièce qui explore sans détour les réalités LGBTQ+, en donnant la parole à ceux qu'on entend peu, c'est une rare création francophone à Edmonton, autoproduite avec le soutien du regroupement artistique francophone de l'Alberta. Cette œuvre théâtrale parle de l'importance de l'inclusion et du dialogue dans les arts. La dernière nuit de la reine sera présentée en français d'ailleurs les 15 et 22 août, mais aussi en anglais les 16, 19 et 21 août. Camille Dany à Plamondon en Alberta.
Le public du Festival Fringe d'Edmonton pourra découvrir ce vendredi 15 août La dernière nuit de la reine, une création théâtrale audacieuse mise en scène et jouée par Gilbert Drapeau et présentée au Centre des arts visuels de l'Alberta. Cette œuvre en français s'attaque sans détour à des enjeux souvent peu représentés sur les scènes albertaines, l'âgisme, la grossophobie et les discriminations internes à la communauté queer. Pour M. Drapeau, il était important d'offrir une voix aux victimes de ces enjeux.
Dans la communauté, il y a une blague qui dit que, surtout pour les hommes gays, si vous atteignez la trentaine, vous êtes mort. Vous n'existez plus dans la communauté. Au fil des années, je me suis rendu compte qu'il y a une vérité là dont on ne parle pas assez souvent. Et puis, en regardant ce qui s'est passé, non seulement dans ma vie, mais celle des gens que je côtoie, on vient qu'à définir une perfection de ce que c'est la personne homosexuelle dans cette communauté-là. Et ça vient qu'à ignorer énormément de gens. Et puis, on se crée comme communauté une solitude qui, franchement, porte atteinte à notre santé globale. Et puis, je me suis décidé que moi, ben, je vais en parler ouvertement. Et puis, je ne me gênerai pas d'adresser le sujet.
C'est seulement une troisième production francophone à Edmonton à aborder directement les réalités LGBTQ+. La dernière nuit de la reine ne se contente pas d'émouvoir, elle cherche à éduquer et provoquer le dialogue. À travers un personnage complexe, le public est invité à plonger dans l'intimité d'une vie marquée par l'exclusion, les luttes identitaires et les violences invisibles.
C'est une pièce qui parle d'espoir. C'est une pièce qui nous invite à visiter une personne queer ayant vécu au travers des années 80 jusqu'à aujourd'hui et comment, au travers de ces expériences-là, a-t-elle grandi, a-t-elle changé, a-t-elle réussi à atteindre son but?
L'objectif est clair, offrir une voix à ceux qu'on entend trop peu dans une langue souvent minoritaire dans les arts de la scène à Edmonton.
C'est d'offrir à la communauté une perspective sur une population qu'ils ne fréquentent pas souvent, mais aussi c'est pour construire des ponts et de faire reconnaître aux gens qu'on vit pas mal tous la même chose.
La pièce entièrement autoproduite par M. Drapeau a pu voir le jour grâce au soutien du regroupement artistique francophone de l'Alberta qui a appuyé la mise en scène et la promotion. La collaboration souligne l'importance de créer des ponts entre les artistes francophones et les enjeux contemporains liés à la diversité sexuelle et de genre.
J'ai eu le plaisir de travailler avec Olivier Laroche comme mon metteur en scène et puis lui m'a dit, après avoir travaillé sur le texte avec moi, je ne connais pas ta réalité, ta pièce m'informe de ta réalité, mais je me reconnais dans ta pièce.
S'il s'agit d'une première production au théâtre pour M. Drapeau, il affirme avoir envie de plus.
J'ai une vision plus grande pour la pièce. J'ai appris beaucoup de choses en développant la pièce. Beaucoup de choses que j'avais aucune idée là, de comment qu'on montait une pièce, etc. J'ai appris et puis là, ce que je vis, c'est une production plus grandiose.
Camille Dany, Boreal FM pour l'IGL.
Voilà, c'est tout pour nous à Point de vue cette semaine. Merci à nos journalistes Toby Germain, Alice Zanetta, Annette Minka, Camille Dany et Robert Savard. Rédaction nationale Julia Chénu et moi-même, Boris Chassagne, ici à l'animation et à la réalisation Point de vue. Vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa et l'initiative de journalisme local. Merci à vous d'être là chaque semaine. Portez-vous bien. Ciao.
écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca.